Deutsche Welle, Économie et développement.
Les nouvelles technologies au profit de l'agriculture. Au Bénin, les rizières dites intelligentes permettent de mieux cultiver grâce notamment à une meilleure irrigation. Objectif, augmenter les revenus des producteurs et consommer local afin d'importer moins de riz de l'étranger. Et après le riz, on s'intéressera au cacao. L'Organisation internationale du cacao va inaugurer le 25 avril prochain son nouveau siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire, premier pays producteur de fèves. Vous entendrez le directeur exécutif de l'ICCO qui évoquera la chute du cours de cette matière première. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, c'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. Comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne, le Bénin est un grand consommateur de riz, mais toujours contraint d'en importer une grande partie. Mais de nouvelles techniques de culture sont mises en œuvre pour aider les producteurs à accroître leur rendement. Il s'agit de Smart Valley. Notre correspondant au Bénin, Rodrigue Guézodje, s'est rendu dans l'une des localités pilotes.
Calculé 31 tonnes. Est-ce que ça fait le poids ?
Au terme d'une fructueuse saison couronnée par une récolte abondante, comme c'est le cas ces 5 dernières années, grâce à Smart Valley, la vie à Wenri prend de nouvelles couleurs. Dans cette petite commune de 40 000 âmes environ, située dans le département rural et vallonnée du Zou, à une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique, l'heure est à la commercialisation du riz produit.
Tu dois prendre 384 750, donc tu dois me retourner 250.
Pour le cas, 250.
250. Là, je suis en train de payer le producteur. Il a vendu 38 sacs de 81 kilos. Le sac revient à 10 125. Ça correspond à 384 750. C'est ce que je lui ai remis tout de suite.
Depuis que leur rendement devient de plus en plus important, les producteurs de Wenri reçoivent au quotidien les commerçants qui viennent surtout de la partie septentrionale du pays. Ils sont donc quelques 500 producteurs de riz à décider d'abandonner leurs vieilles habitudes pour adopter Smart Valley. Daniel Aboko est le responsable de leur groupement coopératif.
On a fait le grand aménagement. Ça n'a pas besoin d'investissement. C'est avec la main, tout est fait. Et ça a réussi. Ça a fait que beaucoup de personnes ont adhéré à la culture du riz à cause du rendement que ça nous donne. Parce que dans notre zone, on a plusieurs terrains qui sont inondables. Et si on ne sait pas faire, le maïs peut être inondé et tu deviens zéro. Mais avec le riz, c'est le contraire. C'est pourquoi ils sont adonnés. Tout le monde, je vais dire. C'est ça que là, vous voyez le nombre de personnes qui sont en train de commercialiser ici maintenant. Et ce n'est pas pour la première fois. Des titans viennent.
De moins de 2 hectares qu'ils aménageaient difficilement avant la découverte en 2010 de la nouvelle technologie, Daniel et ses pairs ont déjà multiplié la superficie de leur champ par 6. Et le rendement de la production est tout aussi impressionnant.
On est au-delà de 59 tonnes sur au total 11 hectares 7 sur le site aménagé. Le système Smart Valley qu'on nous a appris, c'est ça qui a fait que le rendement nous a surpris. Ça a surpris tout le monde parce qu'on a le système de drainer l'eau dans nos casiers et de faire sortir si on a le besoin d'apporter l'eau, on le fait facilement.
Cette nouvelle approche qui fait aujourd'hui le bonheur de nombre de riziculteurs est mise en place par le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice. Cette organisation de recherche panafricaine, dont la mission est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en Afrique, entend ainsi motiver les producteurs à réduire la dépendance du Bénin à l'importation de ce céréale. C'est le chercheur néerlandais Zandes Waart qui a travaillé sur le projet.
Ce qu'on est en train de développer avec le producteur de riz, ça c'est surtout les diguettes, nivellisation des champs et des axes de drainage. Avec ça, les producteurs gèrent l'eau mieux dans le champ et ils sont moins accessibles pour les variabilités en pluviométrie. Donc on a commencé avec une phase pour explorer les possibilités pour améliorer la production du riz avec le producteur. Et on a constaté que vraiment les producteurs sont trop sensibles pour les variabilités en pluviométrie. Et ça, on a voulu améliorer.
Et pour le faire, Africa Rice forme des techniciens des services de vulgarisation en collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour aider les producteurs à s'approprier le mécanisme. Dominique Honton maîtrise bien les différentes phases de ce système d'irrigation innovant, à commencer par la sélection des bas-fonds.
Cette phase est la phase la plus importante, simplement parce que si cela n'est pas bien réalisé, on risque d'assister à des problèmes lors de l'aménagement de ce site. Et maintenant, quand l'aménagement commence, la première étape à aborder, c'est le défrichement, c'est la mise à nu du site à aménager. On essaye de parcourir, de faire un transit sur tout le site pour avoir une idée par rapport au comportement de l'eau sur le bas-fond, les points de stagnation. Donc le technicien se base sur toutes ces informations pour pouvoir maintenant réaliser un croquis qu'on va adapter pour pouvoir ménager le bas-fond.
Si cette nouvelle technologie peut constituer un motif d'espoir pour booster la production de riz au Bénin, la difficulté d'accès aux grands circuits de commercialisation constitue un casse-tête pour les producteurs. La Société nationale de promotion agricole, la structure pouvant leur faciliter l'écoulement du fruit de leurs efforts, ayant été fermée depuis quelques mois, ils ne comptent que sur les commerçants locaux pour vendre leurs récoltes.
Ils sentent que ceux-là aussi, avec ce qu'ils nous ont acheté, ils convoient ça vers le Nigeria. Or, on n'a pas l'accès direct pour envoyer ça au Nigeria. C'est ça là qui fait encore qu'ils gagnent sur nous trop. Il y a de manger, mais il y a de surplus. Il faut vendre aussi. Mais pour vendre aussi et avoir de l'argent, et faire d'autres choses. C'est ça là qui fait qu'on a trop de soucis pour le problème de marché.
En attendant des mesures de soutien et de facilitation de la commercialisation, les populations doivent adopter le riz local. Ceci aidera à freiner l'importation qui perturbe le fonctionnement des marchés nationaux. Rodrigue Guézoguet à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Après 44 années à Londres, l'ICCO engage un virage historique selon ses dirigeants. L'Organisation internationale du cacao quitte Londres en raison des coûts trop élevés dans la capitale britannique et s'installe en Côte d'Ivoire, premier fournisseur de fèves. L'inauguration des nouveaux locaux aura lieu le 25 avril. Cette organisation regroupe 21 exportateurs comme le Cameroun, la RDC ou le Gabon, mais aussi le Pérou et le Costa Rica. À leur côté, 30 importateurs des pays de l'Union européenne, la Suisse ou la Russie. Cette organisation a pour mission de réguler et d'améliorer le fonctionnement de la filière cacao dans le monde. Le monde du cacao, lui, ne se porte pas bien. Les planteurs de Côte d'Ivoire ont ainsi annoncé la semaine dernière vouloir traduire en justice les dirigeants de la filière pour l'opacité de leur gestion. Les cours du cacao sont tombés début mars à leur niveau le plus bas depuis plus de 3 ans. Les producteurs ivoiriens n'arrivent plus à écouler leurs récoltes. Et les prix minimum d'achat fixés par le gouvernement ne sont plus respectés selon le syndicat. Dans le monde, l'offre de cacao dépasse largement la demande, nous explique Jean-Marc Anga, le directeur exécutif de l'ICCO.
C'est essentiellement le résultat de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les pays producteurs ont mis en œuvre ces dernières années une politique essentiellement axée sur l'augmentation de l'offre et nous en voyons les résultats aujourd'hui. Et deuxièmement, là où la consommation aurait pu aider à réduire l'excédent de cacao, la consommation a stagné en quelque sorte. Et donc l'un dans l'autre, on se retrouve dans un contexte d'excédent structurel au niveau de l'offre. Pour l'année cacaoïre en cours, nous prévoyons autour de 260 000 tonnes d'excédent de cacao sur le marché. Et c'est donc ce qui a précipité en quelque sorte la chute des cours.
Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a de la spéculation ? On sait, voilà, la tonne de cacao est discutée à la bourse à Londres, à la bourse à New York. Ça aussi, c'est un marché où il y a beaucoup de spéculation. Est-ce que là aussi, ce n'est pas problématique ?
J'entends beaucoup parler de spéculation, mais la spéculation a toujours existé. Le cacao est devenu aujourd'hui une denrée qui est gérée sur le marché international au même titre que l'or, le café et autres. Donc la spéculation a toujours existé. Si on me dit peut-être que quelque part la bourse de Londres avait comme monnaie la livre sterling, le Brexit, ont pu jouer un rôle, je dirais peut-être oui, mais il est marginal. La raison principale de la chute des prix, c'est l'excédent au niveau de l'offre.
Mais du coup, est-ce qu'il faut contraindre les producteurs à réduire la taille des plantations? Est-ce qu'il y a des mesures comme ça, du coup, pour qu'il y ait moins de cacao?
Le secteur du cacao, dans la plupart, sinon tous les pays producteurs, est un secteur libéralisé. Aucun gouvernement ne peut prendre la décision d'obliger des producteurs individuels à réduire la taille de leur plantation ou même leur niveau de production. Mais par contre, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être mises en œuvre à ce sujet. Et c'est pour cela d'ailleurs que le lundi 24 avril prochain, il y a une réunion de haut niveau qui réunira donc les ministres et hauts fonctionnaires des pays producteurs pour discuter de cette situation de la chute des cours et voir quelles mesures mettre en œuvre.
Les pays producteurs de cacao sont souvent des pays où l'économie est encore peu diversifiée. Par exemple, il y a encore assez peu de transformation sur place. La Côte d'Ivoire, on sait maintenant qu'il y a... Mais c'est plutôt les multinationales qui vont carrément faire du chocolat sur place. Mais ça reste des multinationales extérieures. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a des changements, qu'il y a davantage de diversification, de transformation? Est-ce que c'est des choses qui peuvent s'impulser?
Je pense que la plupart des pays producteurs ont comme objectif de sortir du carcan de l'exportation de matières premières brutes. Des efforts considérables sont faits dans la plupart de ces pays producteurs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, même si c'est le fait de structures étrangères, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe la place de premier broyeur de cacao au monde, en plus d'être le premier producteur de cacao au monde. Donc, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la transformation, mais nous estimons que ces efforts ne sont pas encore suffisants, mais ce n'est pas de la faute des pays producteurs. Le rôle d'un gouvernement n'est pas de créer des usines pour transformer le cacao. Ce sont des initiatives du secteur privé, ce sont des initiatives qui demandent aussi bien des moyens financiers énormes que d'une technologie de pointe également en matière de construction d'usines.
C'était Jean-Marc Anga de l'Organisation internationale du cacao. Et puis sachez que la conférence mondiale sur le cacao aura lieu à Berlin l'an prochain. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, allez sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.